droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif, donc c'est Amnesty International pour sa seconde et dernière émission du mois de mars. Bon, pour ne rien vous cacher, on a eu quelques soucis techniques pour caler l'émission, mais bon, je pense qu'on va réussir à être en votre compagnie pendant une heure, comme deux fois par mois, le mardi soir, donc avec Amnesty International, pour parler bien sûr des droits humains, des combats que fait Amnesty International pour les droits humains, et une grande partie de l'émission de ce soir va encore être consacrée aux droits des femmes, puisque le mois de mars est traditionnellement le mois dédié aux droits des femmes. Et je vais laisser nos invités qui animent l'émission avec moi se présenter, parce que ce sont deux personnes qui, je crois, ne sont venues pour l'instant qu'une seule fois à la radio.
Bonsoir, pour ma part, c'est Yakine.
Bonsoir, c'est Livia.
Voilà, donc ce sont deux personnes du groupe, mais qui ne font pas souvent les émissions de radio. On est très content de les accueillir ce soir. Bon, alors pour commencer l'émission, puisque donc c'est toujours le mois des droits des femmes. Excusez-moi, je suis un petit peu essoufflé, mais bon, les soucis techniques m'ont un petit peu stressé. On ne pourra pas faire l'émission comme on espérait la faire au niveau des illustrations musicales. Mais bon, on va s'arranger. Je vais vous lire un petit communiqué parce qu'il y a une nouvelle qui a été officialisée hier, donc c'est très récent. Et c'est pour vous informer que la nouvelle secrétaire d'Amnesty International Monde, l'ensemble du mouvement, est une Française, elle vient d'être nommée. Est une Française et elle s'appelle Agnès Calamar. Donc c'est le moment ou jamais d'en parler, puisque c'est le mois des droits des femmes et on est très content d'accueillir Agnès comme nouvelle secrétaire de notre mouvement. Voilà ce que dit le communiqué. La Française Agnès Calamar, éminente spécialiste des droits humains, a été nommée directrice générale du secrétariat international de notre organisation. Elle en devient ainsi la principale porte-parole. Agnès Calamar rejoint Amnesty International en tant que secrétaire générale de la plus grande organisation non gouvernementale de défense des droits humains au monde. Jusque-là rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, elle y a dirigé des enquêtes sans précédent. Elle a notamment enquêté sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Sarah Bemish, présidente du Bureau exécutif international, a annoncé sa nomination. À l'heure où les droits humains sont soumis à des pressions sans précédent dans le monde entier, Agnès Calamar va diriger, motiver et fédérer l'ensemble du mouvement d'Amnesty International pour lui permettre de prendre ses défis à bras-le-corps. Sa profonde expérience en matière de droits humains et son courage quand il s'agit de faire entendre sa voix font d'elle une personne hautement qualifiée pour diriger notre mouvement. La secrétaire générale est nommée par le Bureau exécutif d'Amnesty International pour un mandat initial de 4 ans. Sa désignation fait suite à un vaste processus de recrutement mondial. Agnès Calamar succède à la secrétaire générale par intérim, Julie Vérard. « Je suis très honorée, a-t-elle dit, de prendre ce poste de secrétaire générale et de travailler aux côtés des sympathisants d'Amnesty International du monde entier, afin que tous ensemble nous défendions et exigeons le respect de tous les droits humains pour toutes et tous. » Agnès Calamar a derrière elle une carrière prestigieuse dans les secteurs des droits humains et de l'humanitaire. Elle a travaillé pour des ONG dans le milieu universitaire et également au sein des Nations Unies. En parallèle à son mandat d'experte indépendante des Nations Unies pour les droits humains, elle fut directrice du projet mondial sur la liberté d'expression de l'Université de Columbia. Auparavant, elle avait été directrice générale de l'organisation Article 19 pour la défense de la liberté d'expression. Enfin, elle fut la fondatrice et directrice générale de HAP International, partenariat en faveur de l'obligation de rendre des comptes dans le secteur humanitaire. Là où les gouvernements et les entreprises cherchent à réduire au silence celles et ceux qui s'expriment contre leurs abus, à masquer la vérité et à saper ou rejeter les normes relatives aux droits humains, les enquêtes rigoureuses et les campagnes sans compromis d'Amnesty International sont plus vraies que jamais. Agnès Calamar a déjà travaillé pour Amnesty International de 1995 à 2001, notamment en tant que chef du cabinet du secrétaire général de l'époque, Pierre Sanet. Elle a également dirigé des enquêtes sur les droits de la personne dans plus de 30 pays et a publié de nombreux articles sur les droits humains, les droits des femmes, la liberté d'expression, les mouvements de réfugiés et enfin sur la méthodologie des enquêtes sur les droits de la personne. Tandis qu'Agnès Calamar prend ses fonctions de secrétaire général, le Bureau exécutif international tient à remercier Julie Vérard d'avoir assumé l'intérim à ce poste et lui souhaite le meilleur à l'heure où elle s'apprête à se consacrer à de nouveaux défis. Voilà, donc on peut résumer, c'était une femme qui était secrétaire générale d'Amnesty International et c'est une autre femme, mais française cette fois, qui la remplace.
Bonne nouvelle.
Voilà. Et je crois que nos deux invités avaient toute une chronique aussi par rapport à droits des femmes à nous communiquer. Donc, allez-y.
Donc, nous allons commencer ce soir pour notre premier sujet sur la question des violences faites aux femmes et en particulier les femmes d'hommes assermentées par l'État. Tout d'abord, nous allons faire un petit état des lieux sur la violence conjugale subie par les femmes en France.
Du coup, il faut qu'on se pose la question, ce que sont les violences conjugales?
Eh bien, c'est la violence exercée par un des conjoints sur l'autre, au sein d'un couple, mais qui s'inscrit dans un rapport de domination. À ne pas confondre avec les disputes conjugales entre individus égaux. Souvent, la violence n'est pas que physique, elle peut également être psychologique.
Évidemment, Livia, certains mots peuvent avoir des impacts aussi graves que les coups. On vous propose un petit état des lieux. D'après les estimations de l'État en France, cette année, on dénombre 225 000 femmes victimes de violences conjugales. Ce qui fait peur, ce sont les précisions. En effet, 3 femmes, victimes sur 4, déclarent avoir subi des faits répétés. Et 8 femmes, victimes sur 10, déclarent avoir également été soumises à des atteintes psychologiques ou des agressions verbales.
Et la question que nous voulons soulever ce soir, Yakine, est comment fait-on lorsqu'on est femme de policier ou de gendarme et que l'on est victime de violences conjugales? On appelle le 17, le numéro de la police?
Ceci n'est pas forcément évident.
C'est clair. En 2020, Alizée Bernard et Sophie Boutboul se sont penchées sur la question à travers une enquête qui concerne les violences conjugales subies par des femmes de gendarmes et de policiers.
D'ailleurs, je précise qu'Alisa Bernard a elle-même subi des violences de la part de son ex-conjoint, qui était gendarme. Quant à Sophie Boutboul, journaliste travaillant sur les violences faites aux femmes, a accepté de raconter son histoire dans un livre. « Silence, on cogne », aux éditions Grasset.
Et son histoire est un vrai calvaire. Alisée, isolée en caserne, terrifiée devant un homme incarnant la loi et disposant d'une arme, seule face aux tentatives de dissuasion de certains collègues de son conjoint, face aux procédures non respectées et face à l'absence de sanctions hiérarchiques, a eu l'impression de se battre contre un système qui couvrait son conjoint.
Or, le cas d'Alizée n'est pas isolé. Chaque année, des femmes meurent sous les coups et les balles de leur conjoint policier ou gendarme, d'après Sophie Boutboul.
En effet, comment porter plainte lorsque le bourreau répète « La loi, c'est moi » ou « Ce sera ta parole contre la mienne, je suis assermentée par l'État ».
De plus, ces hommes possèdent des armes, connaissent toutes les ficelles des procédures et disposent de moyens pour localiser leur compagne si elle quitte le domicile.
Il faut un courage considérable pour quitter ce genre d'homme.
Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez donc lire l'enquête d'Alizée Bernard et de Sophie Boutboul, « Silence, on cogne » aux éditions Grasset. En parlant de violences conjugales, il faut avouer que la pandémie mondiale n'a fait qu'empirer la situation. D'ailleurs, d'après l'UNICEF, si depuis plus d'un an, l'ensemble de la population a été considérablement impactée par la pandémie de la Covid-19, ces impacts sont une menace supplémentaire pour les femmes et les filles à travers le monde.
En effet, on constate que la déscolarisation est un autre facteur de risque pour les filles. En raison des fermetures d'écoles, 743 millions de filles ont vu leur scolarité interrompue et présentent un risque plus important d'être complètement déscolarisées, et ce dans le monde. Ce qui les expose à des risques supplémentaires de violences basées sur le genre, de mariages précoces et forcés, et aggrave le fardeau du travail non rémunéré des filles.
Même dans notre pays, qui se veut être un modèle pour les droits humains, et même dans des milieux favorisés, on sait que le confinement a fait augmenter les violences conjugales. Ces sujets doivent être abordés dès l'école.
En effet, il est temps de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge au respect des femmes. Il est primordial que les petits garçons sachent qu'ils doivent respecter les filles. Quant aux filles, il faut qu'elles intègrent, qu'elles doivent toujours se faire respecter.
Pour illustrer nos propos, on voulait vous proposer d'écouter une chanson composée en 2016 par la féministe Mathilde. Dans sa chanson, il était une fille, mais malheureusement, problème technique et on ne peut pas vous la faire écouter. Mais honnêtement, on vous la recommande, elle est très émouvante. Je répète, Mathilde, la chanson « Il était une fille ».
Alors maintenant, toujours sur le même thème, hein, nous allons passer à nos minutes culturelles. Ben, de quoi allons-nous parler ce soir, Yakine ?
En fait, on voulait mettre en exergue un film, en l'occurrence Papicha, qui a eu plusieurs récompenses. Et donc, du coup, bien que le contexte actuel ne nous permette pas de sortir voir des films, des spectacles et des pièces de théâtre, nous souhaitons donc vous parler de ce film franco-algérien Papicha, réalisé par Mounia Medour, sorti en 2019, qui nous a beaucoup plu et on a vraiment adoré.
Pour faire court, l'histoire se situe à Alger dans les années 90. Une jeune étudiante de 18 ans rêve de devenir styliste. Or, la situation politique et sociale de son pays ne cesse de se dégrader. Et bien sûr, les premières à en pâtir sont les femmes. Mais Nejma, l'héroïne du film, refuse cette fatalité et décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits.
Rappelons que pendant les années 90, l'Algérie a subi une guerre civile opposant l'État et les forces armées aux islamistes. Pour le côté positif, on peut souligner que le film Papicha a été sélectionné aux Oscars en 2020 et a obtenu le César du meilleur premier film. Pour ce qui est de l'actrice principale Lina Koudri, elle a obtenu le César du meilleur espoir féminin.
Alors ce film évidemment n'est pas projeté actuellement, de toute façon les cinémas sont fermés, mais vous le pouvez le visionner sur Canal+, ou MyCanal. Et pour la petite anecdote, ce film s'appelle Papicha, en référence à un petit surnom issu du dialecte franco-arabe et qui est donné aux jolies jeunes filles algéroises.
Évoquons un autre film sur les droits de la femme qui est sorti le 11 mars 2020. Projeté à Rouen et soutenu par Amnesty International, il s'agit du documentaire « Femmes d'Argentine » réalisé par Juan Solanes.
En effet, Yakine, ce film parle de l'interruption volontaire de grossesse qui était interdite en Argentine. Tout le monde sait que lorsque cette pratique est illégale, elle s'effectue quand même, mais de manière clandestine, avec tous les risques que cela comprend. Ce qui aboutit à un constat terrifiant. Une femme meurt chaque semaine des suites de ce type d'intervention hors la loi.
Donc ce film « Femmes d'Argentine » réalisé par Juan Solanas parle de la campagne nationale pour le droit à un avortement légal, sûr et gratuit. Cette campagne était symbolisée par le port du foulard vert et des manifestations joyeuses sur fond de batucada, qui est un instrument de percussion.
Oui, rappelons qu'un premier projet de loi visant à légaliser l'avortement a été rejeté par les sénateurs argentins et c'est pourquoi le cinéaste Juan Solanas a continué le combat avec ce film en déclarant « Maintenant, la vague verte ne s'arrêtera plus ». Ce film peut être loué sur Arte TV et sur le réseau Google Play.
Nous pensons que si le documentaire a sans doute participé à la prise de conscience pour le droit à l'avortement, mais depuis décembre 2020, le droit à l'avortement a été adopté dans ce pays.
C'est une excellente nouvelle. Malheureusement, il y a aussi des régressions dans d'autres pays. En Pologne, par exemple, depuis janvier 2021, l'IVG n'est possible qu'en cas de viol, inceste ou mise en danger de la mère. Même si le fœtus présente de graves malformations, l'IVG ne peut pas être autorisé.
Et on voulait également vous proposer le discours de Simone Veil sur l'avortement, afin de rappeler en quoi ce droit était est primordial pour les femmes, mais malheureusement, souci technique, on peut toujours pas vous faire écouter, enfin, ou en tout cas vous faire réécouter ce beau discours de Simone Veil.
En tout cas, si vous souhaitez l'écouter, il y a un extrait de 2 minutes 30 sur YouTube. Vous tapez « Discours de Simone Veil sur l'avortement » et vous pourrez aisément l'obtenir.
Du coup, ensuite, on était parti sur un autre sujet, les sociétés matriarcales. Donc, depuis plusieurs années en France, nous parlons de parité homme-femme. Et je ne vous apprends rien lorsque j'avance qu'une loi a même été promulguée en 2014 afin d'assurer l'égalité parfaite entre les deux sexes.
Cette égalité doit concerner toutes les dimensions de la vie de notre société. Et cela, que ce soit au niveau professionnel, de la lutte contre la précarité, de la protection contre les violences, de l'image des femmes dans les médias, ou bien de la parité en politique.
D'ailleurs, à ce sujet, dernièrement, même M. Macron a été interpellé. En effet, il a lui-même déclaré qu'il y a encore du boulot afin de féminiser les cabinets de son gouvernement. Preuve qu'il y a effectivement matière à réflexion, puisque la liste des membres les plus proches de son cabinet, qui compte une liste de 13 noms, apparaît seulement une femme, soit à peine 8% de l'effectif total. Cependant, il est quand même à noter que le gouvernement est tout de même composé de 51% de femmes, ce qui est, on peut le penser, un début vers le respect de la parité.
Oui. Alors nous avons fait quelques recherches pour voir s'il existait des pays ou des communautés dans lesquelles les filles étaient naturellement perçues comme le pilier central de la société. Et bonne nouvelle, on en a trouvé quelques-unes.
Oui, absolument. Tout d'abord, les Mozo en Chine. Chez cette ethnie du sud-ouest de la Chine, les hommes s'occupent des enfants de leurs sœurs. En effet, ce sont les oncles maternels qui jouent le rôle de père. Pendant ce temps, les femmes s'occupent certes des tâches, domestiques, mais elles jouissent également d'une certaine liberté en ayant le droit de se promener quand elles le désirent et avec la personne qu'elles souhaitent.
Alors évidemment, ça fait un peu bizarre de dire ça, hein, parce que chez nous, c'est une évidence de se promener quand on le désire avec la personne qu'on souhaite. Mais rappelons que malheureusement, ce n'est pas le cas dans plusieurs pays. Il est à noter également que dans cette société, ce sont les femmes qui possèdent l'argent du ménage. De plus, en cas de décès, l'héritage n'est transmis que par la femme. Puis, c'est aussi elle qui donne le nom de famille aux enfants.
Suivent ensuite les Jujitans de Zaragoza au Mexique. Excusez-moi si je l'ai mal dit, mais j'ai essayé de faire au mieux. Chez ce peuple, ce sont les femmes qui gèrent les finances familiales en vendant sur le marché les fruits récoltés par leurs époux, tout en s'occupant de la maison, de la famille et des temples.
Ce sont aussi les seules autorisées à parler le dialecte zapotèque, vieux de 2000 ans. Les hommes, eux, s'occupent des affaires politiques, de la pêche et de l'agriculture. Après le mariage, ce sont les hommes qui partent vivre dans leur belle famille. Une fois n'est pas coutume.
Viennent ensuite les Kazi en Inde.
Oui, chez les Kazi, du nord-est de l'Inde pour être plus précise, la naissance d'une fille est davantage fêtée, que celle d'un garçon, ce qui est exceptionnel chez les Indiens. Cela parce que chez eux, la plus jeune fille de la famille deviendra la chef de famille, l'héritière et la gardienne des traditions familiales. Du coup, elles sont dispensées de corvées domestiques jusqu'à l'âge adulte. Les hommes, eux, ne possèdent rien, n'hériteront jamais et perdent tout en cas de divorce. Surprenant, non ?
Oui. Au Ghana, il y a aussi la tribu des Akan. Cette tribu représente la principale communauté matriarcale d'Afrique. Cette société repose sur le principe que ce ne sont pas les enfants qui héritent de leur père à sa mort, mais ceux de sa sœur. Ce qui fait que ce sont les femmes qui ont le plus de pouvoir dans le couple grâce à l'argent hérité de leur oncle.
Quant aux Bijagos, tribu matriarcale se trouvant sur une île au large de la Guinée, là-bas, ce sont les femmes qui dirigent. Elles décident de tout, des dépenses du quotidien jusqu'à l'application des lois.
Ah, quand même.
Ce sont elles également qui répartissent les terres, qu'elles possèdent bien sûr, laissant aux hommes le soin de les exploiter pour survenir aux besoins de leur famille. Et visiblement, aucun homme ne s'est pour l'instant élevé contre cette suprématie féminine. Il faut dire que dans leur culture, c'est Dieu qui aurait accordé ce rôle prédominant aux femmes sur l'île.
Revenons en Asie avec les Minyan Kabo d'Indonésie. Les Minyan Kabo de l'île de Sumatra en Indonésie forment une société matriarcale musulmane. En plus des tâches ménagères, les femmes gèrent à la fois les finances et prennent les décisions importantes au quotidien. Ce sont également elles qui transmettent les biens de la famille à leur décès.
Ben, elles font tout du coup alors.
Pas le plus dur, puisqu'elles délèguent l'éducation de leurs enfants à leurs oncles qui ont sacrément intérêt à filer droit.
Mm-hmm. Toujours en Asie, nous trouvons également les Lao de Thaïlande, qui forment un groupe ethnique que l'on retrouve essentiellement au nord-est de la Thaïlande et un peu chez leurs voisins. Chez eux, ce sont les femmes, les cadettes pour être précises, qui héritent de la famille. Ce sont elles encore qui gèrent tout ce qui touche au quotidien de la maison. Finances comprises, en y réfléchissant bien, elles assument de nombreuses tâches comme chez nous. Mais il semblerait que les hommes Lao acceptent ce rôle prédominant de leurs femmes.
Voilà matière à réflexion, mais précisons tout de même que tous ces propos ne sont pas contre les hommes. En effet, nombre d'entre eux sont pour le partage des tâches et l'égalité entre les deux sexes.
Tu as raison, mais cependant il reste un long chemin à parcourir. Et c'est tout le sens des actions, dénonciations, mais aussi sensibilisation et éducation, entreprises par Amnesty depuis des années.
Pour clore ce sujet, on aurait aimé écouter l'hommage de Grand Corps Malade dédié aux femmes avec le morceau « Mesdames ». Donc on vous invite également à l'écouter. Vous pouvez faire une recherche sur YouTube et vous trouverez facilement ce morceau « Mesdames » de Grand Corps Malade qui illustre bien l'importance de la femme au sein des sociétés.
Et d'ailleurs, Yakin, il est à noter que de plus en plus de chansons parle des violences faites aux femmes ou de l'égalité hommes-femmes. Il me semble que la comique Camille Lelouch a sorti récemment une chanson. Je ne me rappelle plus du titre. Je ne sais pas si tu le connais.
Non, ça me dit rien.
Voilà, de plus en plus de chanteurs sont sensibilisés à ce sujet et donc permettent de sensibiliser les populations. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, plutôt une bonne nouvelle de pouvoir en discuter et de voir les œuvres artistiques œuvrer dans ce sens.
Eh bien, merci beaucoup pour cette chronique à la fois très complète et très originale, parce que tout le chapitre concernant effectivement les sociétés, les exemples de sociétés matriarcales montre aussi que, en fait, le schéma de société dans lequel on fonctionne depuis nous en Occident et dans beaucoup de pays du monde depuis des centaines et des centaines d'années, à savoir la société patriarcale, n'est pas du tout n'est pas du tout quelque chose qui se crée automatiquement. C'est vraiment quelque chose de culturel. Donc c'est intéressant d'avoir d'autres éclairages sur la question et d'autres exemples de sociétés qui sont structurées différemment. Et ça, c'est tout à fait bien. Et juste une petite remarque à la fin. Effectivement, quand on dit que vous avez dit que la chronique n'était pas dirigée contre les hommes, moi, en tant qu'homme, effectivement, je ne peux que soutenir. C'est vrai que le but, effectivement, c'est l'égalité. C'est pas du tout la rivalité. C'est bien évident. C'est bien évident. Bon, alors comme on vous a dit, effectivement, on a quelques soucis techniques qui font que ce qu'on avait prévu comme illustration pour cette chronique, ça n'a pas bien marché. Illustration musicale et autres, ça n'a pas bien marché. Mais on vous promet une chose, c'est que dans les émissions futures d'Amnesty dans les semaines qui viennent, on vous repassera les morceaux de musique qui étaient prévus aujourd'hui. Mais on va quand même faire une pause musicale parce que celle-là, elle va marcher. Et on se retrouve effectivement juste après pour la suite de notre émission sur les droits humains et les droits des femmes.
Thank you. waiting your time, dreaming of a better life. Waiting your time, you're more than just a wife. Don't have to do what your mother has done. She has done. This is your life, this new life has begun. It's your day, woman's day. It's your day, woman's day. Turning the tide, you are on the incoming wave. Turning the tide, no, you are nobody's slave. Find your sisters and brothers who can hear all the truth in what you say. They can support you when you're on your way. It's your day, woman's day. It's your day, woman's day.
Retour. Hop. J'ai perdu mon micro, ça ne marche plus avec un micro. De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International pour la suite de son émission. Et on vient d'écouter un morceau qu'on vous a déjà passé, mais il y a un certain temps. Un morceau de Peter Gabriel qui est consacré aussi aux droits des femmes, pour les anglicistes auront compris les paroles. Et ça s'appelle « Shaking the Tree ». Voilà. Donc, pour continuer l'émission, donc, va être un petit peu modifié suite à nos petits soucis techniques qu'on a eu au début, mais c'est pas grave. Voilà. Moi, je vais vous lire la suite, l'émission la première émission du mois d'octobre sur les droits des femmes. On vous avait lu quelques bonnes nouvelles, quelques avancées concernant les droits des femmes. Donc, je vais vous en lire d'autres. Et après, vous aurez droit à d'autres informations, mais la plus locale et plus personnelle sur les droits des femmes. Voilà. Donc, une autre bonne nouvelle. Des lois sur le viol, donc c'est très récent, hein, c'est sur l'année 2019-2020. Des lois sur le viol ont été modifiées. En décembre 2020, après des années de mobilisation d'organisation de défense des droits des femmes et des victimes, le Parlement danois a adopté une loi définissant un rapport sexuel sans consentement comme un viol. Comme la plupart des pays européens, le Danemark avait auparavant une législation archaïque qui reconnaissait le viol uniquement en cas de violence physique, de menace ou de contrainte. Christine, une journaliste danoise qui avait dénoncé un viol, a décrit à quel point il était difficile d'obtenir justice. Elle a dit « Le pire aspect de cette expérience a été que la police, les avocats et le juge se sont concentrés sur la question de savoir s'il y avait des preuves de violence physique. Ils voulaient savoir si j'avais opposé une résistance et non si j'avais donné mon consentement. » D'autres pays procèdent à des changements similaires. En 2019, la Grèce a modifié sa législation pour reconnaître que les relations sexuelles sans consentement constituaient un viol. L'année dernière, la Croatie a également modifié sa législation et l'Espagne et les Pays-Bas ont annoncé leur intention de faire de même. Changer les lois ne fera pas disparaître les viols, mais c'est un pas important pour une évolution des mentalités. L'inscription du consentement dans la loi fait passer un message. Les autorités prennent la question du viol au sérieux.
Il était temps.
Oui. Autre bonne nouvelle, le nombre de pays reconnaissant le mariage entre personnes de même sexe a augmenté. La pandémie a eu des conséquences désastreuses pour de nombreuses personnes LGBTI. Les difficultés d'accès existantes aux soins de santé, à l'emploi et au logement se sont renforcées. Et les confinements ont contraint de nombreuses personnes à s'isoler dans des environnements dangereux. Mais même dans ce contexte préoccupant, il y a parfois eu de bonnes nouvelles. L'année dernière, le Costa Rica est devenu le premier pays d'Amérique centrale à légaliser le mariage entre personnes de même sexe. Et le premier mariage entre personnes de même sexe a eu lieu en Irlande du Nord. Le Gabon a voté la dépénalisation des relations consensuelles entre personnes de même sexe et une loi annulant l'interdiction des relations entre personnes de même sexe est entrée en vigueur en Angola. Le Monténégro a voté la légalisation des unions civiles entre personnes de même sexe et la Croatie a légalisé l'adoption par des couples de personnes de même sexe. De plus, deux projets de loi visant à protéger les personnes contre la discrimination, y compris les personnes LGBT, sont actuellement proposés et débattus au Japon et en Corée du Nord. Il s'agit d'étapes cruciales pour garantir l'égalité des droits pour tous et toutes. Petit à petit, pays par pays, la situation évolue. Et enfin, une dernière bonne nouvelle sur cette longue liste. Les droits des personnes LGBT sur les lieux de travail ont été protégés. En juin, la Cour suprême des États-Unis a statué que les personnes LGBT étaient protégées en vertu de la loi relative aux droits civils contre la discrimination en matière d'emploi sur la base de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Elle a ainsi apporté une reconnaissance très attendue de l'égalité des personnes LGBT devant la loi et une remise en cause fort nécessaire du démantèlement de la protection de leurs droits fondamentaux par le gouvernement de Donald Trump. Pour de nombreuses personnes trans dans le monde, la pandémie a été une période très éprouvante. La fermeture des services de soutien et l'exclusion des personnes trans des mesures de protection sociale ont accru le risque de violence et ont marginalisé ces personnes. Faute de mesures d'aide ou de relance spécifiques du gouvernement, de nombreuses personnes trans ont dû se tourner vers d'autres membres des communautés trans ou LGBT pour obtenir de l'aide. Il existe des exemples motivants de militantes ou des communautés trans qui se sont mobilisées pour soutenir celles et ceux qui en avaient le plus besoin, mais les militants et les militantes ne devraient pas avoir à suppléer aux défaillances des pouvoirs publics. Voilà. Il y a d'autres bonnes nouvelles en termes de respect des droits et des personnes transgenres et autres. Mais bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On y reviendra peut-être. Et je crois que donc Lydia avait d'autres nouvelles à vous donner.
Tout à fait. Donc déjà, je précise que ça fait du bien, toutes les bonnes nouvelles que tu as données, Didier, parce que c'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas que des bonnes nouvelles.
Non, il n'y a pas, des bonnes nouvelles, mais c'est important de les citer, effectivement.
C'est important aussi de savoir que l'action d'Amnesty ou d'autres organismes permettent d'aboutir à ce genre de résultats. Et ça fait chaud au cœur. Mm. Et donc, du coup, l'année dernière, avec Livia, on avait organisé avec les élèves, une action sur le droit de la femme. Et justement, pour soutenir le réalisateur Juan Solanas dans son combat sur l'acceptation de le droit des femmes sur l'avortement en Argentine. Et donc, on avait demandé aux élèves de nous illustrer sur des panneaux d'une grande taille. C'était quel format, tu te rappelles?
Je ne peux pas dire le format, mais c'était deux très grands panneaux pour qu'ils puissent... comme des murs d'expression, en fait. C'était le but des murs d'expression. Pour que nos élèves demandent au lycée, sur la pause, à tous les autres élèves de venir s'exprimer sur ce sujet et mettre des petits mots. Et en fait, il me semble, Yakine, que nous voulions amener ces tableaux, si on peut appeler ça comme ça, pour la journée de vente des livres.
Absolument, oui. On voulait donc les exposer pour la journée des ventes de la foire, enfin pour la foire aux livres.
Voilà, c'est
ça. Qui était organisée en mars 2020, donc malheureusement qui n'a pas pu avoir lieu. Mm-hmm. Et l'idée également, c'était que les élèves portent un foulard vert. Tu te rappelles?
Tout à fait.
Justement pour soutenir.
Un soutien au film.
Voilà, au soutien au film.
Un soutien au film des femmes d'Argentine, effectivement.
C'est ça.
Puisque c'était le signe de reconnaissance des femmes là-bas qui demandaient la modification de la loi sur l'avortement.
Exactement. Mm-hmm. Et du coup, on voulait vous faire part de certaines choses qui avaient été notées sur ces panneaux. C'était très intéressant, notamment parce qu'au début, les jeunes n'osaient pas trop.
Oui.
Mais nos élèves, qui sont des futurs commerciaux, n'oublions pas de le préciser, en bac pro commerce-vente, allaient vers eux, les motiver. Et les filles, au début, ils sont allées plus facilement. Mais il y a eu pas mal de garçons qui ont rempli aussi. Et on a eu des choses... très intéressante, amusante. Donc, on a eu des phrases assez classiques. Tous égaux en droit. Tu respectes ta mère, ta sœur. Donc, pourquoi pas les autres femmes. Non à la violence. J'ai le droit de m'habiller comme je veux. Donc, des revendications. Un garçon, j'avais trouvé ça bien, avait dessiné une balance... Donc, équilibré, évidemment, avec le symbole de la femme d'un côté et le symbole de l'homme de l'autre. Je suis née pour être respectée. Non. Les femmes ne sont pas votre propriété. Après, il y avait des choses un petit peu amusantes, un peu plus naïves, mais au moins les jeunes s'exprimaient. Par exemple, les femmes sont les plus belles ou les femmes, c'est les plus mieux.
Excellent. C'est vrai.
Et nous avons eu même
je t'interromps, c'est un peu naïf, mais c'est très rigolo, quoi.
Mais oui, c'est ça. C'était assez drôle. En tout cas, c'était écrit. Bon, évidemment, je ne vous parle pas de certaines fautes, mais... Le cœur y était. Tu as raison, Yakine, c'est ce qui est le plus important. On a eu, évidemment, la petite phrase de Sacha Guitry. Les femmes, je suis contre, tout contre. 3 points de suspension. Donc voilà, donc c'était vraiment chouette. Malheureusement... Le confinement a fait que...
Ceci dit, ce qui peut être fait, si Didier, tu es d'accord, et si Livia, tu l'es également, c'est de prendre en photo ces panneaux.
Oui.
Même s'ils ont été faits il y a un an.
Oui, oui.
Et de les exposer sur Insta et la page Facebook. Ça peut être assez rigolo.
C'est une bonne idée. Voilà. Comme ça, les auditeurs et les auditrices entendent un projet d'action en direct sur l'antenne de Principe Actif.
Donc ça peut être assez rigolo.
Mais ça peut être bien. Oui, tout à fait.
Et puis les élèves verront effectivement exposer leur travail.
Tout à fait.
Et leurs revendications. Et puis comme ils n'ont pas eu l'occasion de le faire, ceci dit, on les sortira. Dès qu'on aura l'occasion de le faire. Mais effectivement,
oui,
mais ça peut être un petit rappel.
Avec
ça peut
les
être
conditions
sympa.
Et les conditions sanitaires qui durent et qui perdurent et qui nous compliquent la vie, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Quoi.
Tout à fait.
Donc voilà. Mais
et
ça, c'est une très bonne idée. C'est une très
puis
bonne
difficile
idée.
À refaire cette année, on imagine mal un stylo, un feutre circulant de main en main.
Oui, c'est ça.
Je pense que ça ne passerait pas très bien.
Non. C'est pour ça que nous, le groupe d'Evreux, on a beaucoup d'actions qui ne peuvent pas se faire à cause des interdictions qu'on a de l'administration à droite et à gauche. Pas par rapport à nous, mais par rapport aux contraintes sanitaires. Mais c'est une très bonne idée, oui, effectivement. Bon, on en discutera au niveau du groupe, sans problème.
Okay. Et puis, si tu le permets, Didier,
vas-y.
Ce matin, donc, avec Yakine, on finalisait un petit peu notre chronique. Et elle m'a raconté une petite anecdote, qui n'est pas qu'une anecdote, mais que j'ai trouvée très drôle. Je te laisse raconter, Yakine.
Alors, effectivement, c'était en écoutant une autre radio qui parlait d'Edith Cresson. Et j'étais assez surprise par le parcours de cette femme, en fait, donc qui était la première femme premier ministre de la Ve République. Ve République, combien d'années d'existence? A priori, près de 70 ans, si je ne me trompe pas.
C'était même la première femme premier ministre de l'histoire de la République en France. Enfin, de toutes les républiques qu'on passait avant, il n'y avait jamais eu de femme premier ministre.
Donc,
depuis 1789, les différentes républiques qui se sont succédées n'avaient nommé que des hommes.
Voilà, donc Edith Cresson, première femme premier ministre, mais avant qu'elle le soit... Elle était ministre de l'Agriculture, donc elle expliquait comment elle a été nommée ministre de l'Agriculture. Donc elle expliquait que ce n'était pas un parachute, qu'elle était compétente en la matière, qu'elle avait été députée européen au sujet de l'agriculture, enfin voilà, sur ce sujet-là. Et donc, force de travail, le président Mitterrand lui a proposé le poste de Premier ministre qu'elle a accepté. Ah oui, et justement, par rapport à son poste de ministre de l'Agriculture, elle racontait que son premier meeting, en fait, il y avait une pancarte de long en large où était inscrit, Edith...
J'espère que tu es meilleure au champ qu'au lit. Non, un truc comme ça.
J'espère que tu es... je sais que tu n'es pas très bonne en tant que ministre. Enfin bref, c'était pas dit comme ça, mais c'était l'idée.
Ouais.
Mais que tu l'es au lit. Donc, et elle a rétorqué en disant je suis ravie parce qu'en fait, effectivement, je vais devoir m'occuper de porc aujourd'hui. Et justement, c'est pour cette raison que je suis devant vous aujourd'hui. Et j'ai trouvé cette réplique assez fantastique.
C'était un bon sens de la propos.
Oui, elle a dit, c'est pour ça qu'on m'a nommée pour gérer des porcs.
Voilà. J'ai trouvé la réplique assez, assez percutante. Et en fait, après, elle racontait qu'elle a tenu que 10 mois en tant que Premier ministre parce qu'elle a eu énormément de pression à cette époque-là en tant que femme. Enfin, comme qui disait qu'elle était incompétente et qu'elle n'était pas bonne en tant que ministre, alors qu'elle n'avait pas eu l'occasion de faire quoi que ce soit. Et a priori, elle avait réussi à obtenir des meilleurs revenus pour les agriculteurs à l'époque où elle était ministre de l'Agriculture.
Oui.
Donc voilà. Donc c'est triste que depuis, il n'y a toujours pas eu de femme.
Oui, de toute façon, ça me rappelle la chronique que vous avez faite tout à l'heure. C'est vrai que les sociétés patriarcales, c'est quand même l'exemple universellement répandu, malheureusement, et que l'égalité des droits, on est là pour en parler, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, effectivement, par rapport à ça. Ça me rappelle aussi les commentaires qui sont faits parfois à l'Assemblée nationale aussi, sur la façon dont certaines femmes députées s'habillent, etc.
Oui,
et qui sont complètement hors de propos et qui sont des dénigrements, et voire pire, par rapport à la personne, quoi. C'est vraiment, voilà. Donc, comme vous disiez pendant la chronique et votre chronique et pendant ce qu'on répète à longueur d'émission, au niveau de la défense des droits, on a encore du travail, mais on est là pour ça, effectivement.
Tout à fait.
Bon, l'émission s'approche. Je ne sais pas si on aura le temps de quand même passer quelques secondes de musique encore d'ici la fin de l'émission, mais ça va être très court. Je voulais quand même, alors je sais bien qu'on a parlé beaucoup du droit des femmes depuis le début du mois, ce qui est normal. Je voulais quand même vous donner quelques autres informations. Parce que, bon, malheureusement, l'actualité des droits humains ne se limite pas aux atteintes faites aux droits des femmes. Il y a plein d'autres sujets sur lesquels les droits humains sont malmenés, dirons-nous. Et il y a un sujet sur lequel on vous a pas trop parlé depuis qu'il y a eu l'espèce de coup d'état militaire, c'est la Birmanie, enfin le Myanmar de son nom officiel maintenant, et ce qui s'y passe. Donc on vous en a pas trop parlé les émissions précédentes, mais je vais vous lire juste le début parce que le communiqué est très long, mais un communiqué qui est paru là, ce mois-ci sur le site d'Amnesty. Et qui dit la chose suivante, l'analyse de plus de 50 vidéos montre des homicides systématiques et prémédités sur fond de déploiement massif d'armes de guerre. Alors je précise effectivement que ce sont l'armée birmane qui tire sur des manifestants pacifiques et qui ne font que réclamer le retour de la démocratie. Des soldats qui avaient été impliqués dans des atrocités contre les minorités ethniques sont aujourd'hui en opération dans les villes du Myanmar ou de la Birmanie. Des éléments prouvent le recours à des exécutions extrajudiciaires et à des homicides sur ordre de commandement de l'armée. De nouvelles recherches menées par Amnesty International révèlent que partout dans le pays, l'armée du Myanmar utilise des tactiques de plus en plus meurtrières et des armes normalement réservées aux champs de bataille contre des manifestants pacifiques et des passants. Après avoir analysé donc plus de 50 vidéos de la répression en cours, le laboratoire de preuve du programme Réaction aux crises d'Amnesty International est en mesure de confirmer que les forces de sécurité semblent appliquer des stratégies planifiées et systématiques, marquées notamment par un recours accru à la force meurtrière. Beaucoup des homicides sur lesquels des informations ont été recueillies, s'apparentent à des exécutions extrajudiciaires. Les images montrent clairement que l'armée du Myanmar, aussi appelée, alors c'est son nom, Tatmadaw, je parle très mal le birman, est de plus en plus équipée d'armes adaptées aux seuls champs de bataille et non aux opérations de maintien de l'ordre. On y voit souvent des forces de l'ordre de sécurité agir de façon irresponsable, tirant par exemple sans discernement et à balles réelles dans des zones urbaines. Ces tactiques militaires sont loin d'être nouvelles, mais la folie meurtrière de l'armée du Myanmar n'avait jamais auparavant été diffusée en direct sous les yeux du monde entier, a déclaré Joanne Mariner, directrice du programme Réaction aux crises d'Amnesty International. Ces agissements ne sont pas ceux de soldats isolés et débordés qui prendraient de mauvaises décisions. Ils sont le fruit d'ordres donnés par des commandants sans remords, déjà impliqués par le passé dans des crimes contre l'humanité, qui déploient leurs troupes et appliquent leurs méthodes meurtrières au grand jour. Bon, on va sauter. Oui, bien sûr, vas-y.
Si
vas-y.
Je peux
bien
me sûr. Permettre, Didier, je dois dire que ces manifestants ont un courage extraordinaire parce qu'ils pourraient du coup s'arrêter de manifester. Et j'entendais sur France Inter l'autre jour qu'au contraire, ils sont en train, donc ils ne peuvent pas bien sûr se défendre avec des armes, mais ils s'auto-forment au premier soin. Donc ça veut dire qu'ils vont manifester. En ayant bien conscience que certains vont prendre des balles et donc leur manière de résister, ils continuent à manifester, mais ils apprennent tous à faire les premiers soins, c'est-à-dire contre les saignements, pour arrêter un saignement ou pour et donc je trouve ça quand même extrêmement courageux de continuer malgré tout à manifester sa colère. Voilà, je tenais à le préciser.
Il me semble qu'il y ait des enfants qui ont été assassinés en plus. Oui. Hein.
Alors, j'ai pas repris le chiffre là où on en est par aujourd'hui au nombre de morts estimés par les médias, mais je crois qu'on en est à plusieurs centaines hein, de toute façon maintenant, parce que je crois qu'hier ou avant-hier, il y avait déjà eu 80 morts par jour ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est tout à fait vrai, c'est ce que dit aussi le communiqué d'Amnesty, mais tu l'as dit sous une autre façon, mais on dit effectivement les mêmes choses. Ils ont un grand courage, effectivement, et encore une fois, ils ne font que réclamer le retour à ce qu'on souhaite tous, c'est-à-dire de vivre dans un État démocratique. Et je vais juste vous dire quelques mots sur la fin du communiqué, parce que ça englobe un autre sujet complémentaire, mais ça me paraît tout à fait intéressant. C'est qu'est-ce que fait ou qu'est-ce que ne fait pas, d'après Amnesty, la communauté internationale. Alors, les États membres de l'ONU ont chargé le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme d'enquêter sur les intérêts économiques et les relations commerciales de l'armée du Myanmar, donc de la Birmanie, et de rendre compte de ses travaux au Conseil des droits de l'homme sous la forme d'un rapport détaillé et de recommandations. Il appartient maintenant au Conseil de sécurité de l'ONU d'aller au-delà des manifestations d'inquiétude et de prendre les mesures qui s'imposent et qui n'ont que trop tardé pour mettre un terme aux violations et demander des comptes aux auteurs présumés de ces agissements. Nous appelons tous les membres du Conseil de sécurité à mettre les considérations politiques de côté et à soutenir la population du Myanmar et non les généraux qui ordonnent quotidiennement des tueries faisant des victimes parmi des manifestants pacifiques, de simples passants et des opposants politiques. Le Conseil de sécurité doit de toute urgence saisir la Cour pénale internationale de la situation et imposer sans plus tarder un embargo international complet sur les armes et les sanctions financières et des sanctions financières ciblées aux hauts gradés de l'armée responsable d'atrocités. Alors que l'armée intensifie encore ses attaques généralisées, la population du Myanmar ne peut pas attendre éternellement que justice soit rendue. Le rapport Military Limited d'Amnesty International, alors je l'ai vu mais c'était en anglais, donc voilà. Donc ce rapport publié en septembre 2020 montre que des liens ont pu être établis entre un certain nombre d'entreprises internationales et locales identifiées dans le rapport de la mission internationale et le financement d'unités de l'armée du Myanmar impliquées dans les crimes de droit international. Depuis, l'armée birmane a été impliquée par la commission de graves violations des droits humains et de crimes de droit international après le coup d'état militaire du 1er février dernier. Et le communiqué se termine. Nombre d'entreprises qu'Amnesty International et la mission internationale ont appelé à mettre fin à leurs relations commerciales avec la Birmanie ne l'ont pas encore fait, notamment le producteur d'acier sud-coréen POSCO et la société chinoise Wabang Mining qui continue à mener des activités au Myanmar en partenariat avec l'armée. Donc voilà, Amnesty fait donc une action auprès de l'ONU pour que effectivement ces sanctions financières et économiques prennent réalité. On va rapidement toucher maintenant au bout de l'émission. Je voulais vous parler aussi, mais je crois qu'on va reporter ça à la prochaine émission. Il y a un gros dossier qui est sorti sur la situation des enfants ouïghours en Chine. Justement, on vient de parler de la Chine, qui continue à soutenir la Birmanie. Et bon, vous êtes aussi au courant par les actualités dans les médias que la situation des Ouïghours en Chine, effectivement, il y a plusieurs millions de personnes qui sont toujours détenues dans les camps. Et il y a là aussi une enquête qu'Amnesty a été faite, qui montre qu'en fait, un certain nombre d'enfants ont été séparés de leurs parents, certains parents ayant pu fuir la Chine et se réfugier dans des pays européens, et les enfants étant retenus de force dans ces camps-là. Ça représente des milliers d'enfants qui sont séparés de leurs parents. Donc on vous en parlera la prochaine fois. Le communiqué est assez éprouvant, je dois le dire, parce que c'est assez émouvant. Mais on ne peut pas non plus continuer à se taire, et Amnesty ne se tait pas par rapport à la situation de la minorité ouïghour en Chine, dont les droits sont bafoués de plus en plus ouvertement et à grande échelle par les autorités chinoises. Voilà. On n'aura pas le temps de passer la deuxième illustration musicale, c'est pas grave. Notre actualité du moment se résume toujours pour l'instant pour cause de pandémie aux émissions de radio. Donc notre prochaine émission en direct sur l'antenne de Principe Actif, émission d'Amnesty, c'est le mardi 13 avril, 19h à 20h sur l'antenne. Et on vous avait parlé la dernière fois et l'initiative est encore sujette à caution parce qu'on ne sait pas si on va disposer de la salle, mais à cause de la pandémie toujours, mais normalement, jeudi prochain, donc restez attentifs au programme de Principe Actif, jeudi prochain de 18h à 19h30, on va avoir une autre émission dans la série Fréquences droits humains consacrée aux droits des femmes toujours, mais là on va parler principalement des droits des femmes ici en France et plus particulièrement des droits des jeunes filles. Donc on a plusieurs invités, on a un programme de, je vous en parlerai pas plus tout de suite, mais pour vous laisser un peu l'eau à la bouche, qui est assez étoffé. Mais on a un souci, on vous cache pas, pour pouvoir maintenir le lieu, puisqu'on sera un certain nombre. Et quand on dit un certain nombre à l'heure actuelle avec les contraintes sanitaires, même en respectant les gestes barrières, c'est compliqué pour avoir les autorisations. Donc on est toujours dans l'attente. Donc normalement, jeudi 1er avril, c'est pas un poisson d'avril, émission spéciale Fréquences droits humains sur les droits des femmes. Voilà. Donc on va laisser l'antenne à notre ami du laboratoire qui vient d'arriver. Et puis on se retrouve donc le 13 avril pour la prochaine émission Amnesty, 19h en direct sur l'antenne de Principe Actif. Et on remercie nos invités. Je vais leur demander de se renommer, pour pas écorcher leur nom, de se renommer toutes les deux. Donc vous étiez à l'antenne. Vous étiez
Livia, et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.
Et Yakin, à bientôt.
Voilà. Donc, on se retrouve dans une quinzaine de jours en direct sur l'antenne de Principe Actif. Et on espère jeudi aussi sur l'antenne de Principe Actif. Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir.
Bonsoir.
Fini. Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.